Donc je vais donner la parole à Michel Marx, responsable de Corpus Coranicum, pour un exposé qui envisage oral et écrit.
Merci pour l'invitation. Le sujet de ma communication porte sur la relation entre la transmission écrite et la tradition savante. Dans le programme, j'avais oublié le sous-titre. Quelques remarques au sujet d'une relation disputée. Depuis la publication par François Desroches du catalogue des manuscrits coraniques de la Bibliothèque nationale de France en 1983, l'étude de la transmission écrite a connu un véritable essor, avec un décalage de 20 ans à peu près. L'édition en fac-similé préparée par Desroches et Sergio Noyano Seda en 1998 et 2001, marque le point de départ d'un fort gain d'intérêt des chercheurs pour les manuscrits coraniques. De plus et depuis, en Turquie, le projet de Taya Altınkulaç, ancien président de la Fondation des affaires religieuses turques, donna lieu à la publication de toute une série de reproductions de manuscrits anciens du Coran. De cette façon, il attira l'attention sur la documentation écrite du texte coranique à laquelle les docteurs de la tradition musulmane s'étaient rarement intéressés. Du point de vue théologique classique, le Coran est considéré un texte oral. En prière, le texte est récité de façon musicale et solennelle. La récitation du Coran constitue le centre de la prière. La façon de prononcer et d'entonner le texte est enseignée par des savants qui suivirent l'enseignement des savants précédents, qui à leur tour avaient été formés par des maîtres de leurs époques respectives. La chaîne de transmission court-circuite les générations pour arriver au prophète qui, lui, aurait reçu le texte de l'ange, lui-même envoyé par le Tout-Puissant. Ainsi, le croyant répète-t-il et renouvelle-t-il par le rituel l'acte initial de la révélation divine à Mahomet. Dans cette perspective, il n'est guère étonnant qu'aucun codex ne soit présent pendant la liturgie musulmane. Le texte est récité par cœur et la figure du récitant aveugle symbolise par excellence la pure transmission du texte coranique intact de tous les aléas des supports créés par les êtres humains. Aujourd'hui, un fonds assez large de manuscrits anciens datant des 7e et 8e siècles est connu, qui englobe pour les collections accessibles quelques 4000 feuillets de parchemin, le papyrus étant très rare. Une quantité extraordinaire si l'on le compare avec la transmission du Nouveau Testament pour lequel les témoins écrits volumineux datables d'avant l'an 200 constituent plutôt l'exception que la règle. Bien que l'héritage écrit du texte coranique devienne de plus en plus documenté, catalogué et accessible, la notion de la tradition orale semble toujours bien ancrée dans les esprits, au milieu académique et au dehors. Ce large corpus de Coran ancien consolide, d'un côté, le texte coranique en tant que document du 7e siècle, d'un autre côté, le contenu des manuscrits ne s'accorde pas à 100%. D'un autre côté, le contenu des manuscrits ne s'accorde pas à 100% avec le texte coranique d'aujourd'hui. Mis à part le palimpseste Sana'a, où se manifestent des véritables variantes textuelles, c'est-à-dire des variantes où un mot différent est mis à la place du mot du texte commun, ou bien encore où des rajouts, sans doute à fin exégétique, peuvent être observés. Tous ces manuscrits anciens contiennent le texte commun, lu avec une paire de lunettes qui ne prend pas en considération les points diacritiques. Néanmoins, le texte manuscrit est pratiquement le même. Le rasm, le squelette consonantique des manuscrits du 7e siècle, est ainsi très proche des graphies d'aujourd'hui. Cependant, si l'on regarde de près des textes manuscrits, sans les lunettes masquant des points diacritiques, l'ambiguïté de l'écriture arabe ancienne, aucun manuscrit avant 800 ne s'accorde parfaitement avec le texte d'aujourd'hui. Au niveau sémantique, supposant que le contenu fût le même avant 800, ces variantes sont négligeables peut-être, mais nous invitent à revoir le dogme de la transmission orale. Certes, le contenu de manuscrits avec très peu de signes diacritiques les manuscrits en écriture hijazi et koufi ancien ne peut pas être déterminé précisément, mais il est pratiquement toujours en légère divergence avec les manuscrits avant 800, en divergence avec les sons établis, les recensions canoniques, ne serait-ce que pour quelques mots. Ici, un Coran de Sana. Ici, le manuscrit de Tübingen. Par notre système de couleurs, nous signalons les divergences, les signes qui se distinguent de l'édition de référence, l'édition du Caire. Par ma communication, je souhaite discuter quelques points ayant trait à la relation entre la transmission écrite, attestée de manière plus assurée et ancienne, et la tradition nommée orale, attestée dans les écrits philologiques et exégétiques à partir de la fin du 8e siècle. Le premier point est donc le désaccord léger entre les manuscrits anciens par rapport au texte de Hafs. Le texte de Hafs est le texte le plus répandu au monde aujourd'hui. Donc les manuscrits, ça c'est la première observation, est toujours en légère divergence avec le texte, on ne peut pas dire standard, il n'y a pas de véritable standard pour le texte coranique, mais pour le texte commun. S'agissant, autre cas, deuxième observation, c'est un nom biblique dans le Coran, le nom Ibrahim. S'agissant de l'écriture du nom Ibrahim, il est écrit en deux manières, aujourd'hui, mais aussi dans les manuscrits, sans Yah, Abraham, et Ibrahim avec Yah. Comme dans le manuscrit de Londres, où on trouve les deux graphies. Yassine Dotton remarque un accord entre les endroits où Londres, le manuscrit de Londres, écrit Ibrahim avec la lettre Ya, avec les endroits auxquels un élève du grand savant de Damas, Ibn Amer, le fameux Hisham, transmetteur de Ibn Amer, la référence d'Ibn Mujahid pour la Syrie, par exemple, lit la voyelle I pour les endroits, donc Ibrahim, pour les endroits où le nom est écrit avec un Ya. Dans le manuscrit de Londres. En cas d'absence du Ya, Hisham, mort vers le milieu du 9e siècle, lit la voyelle A. Donc il y a une évidence manuscrite, le manuscrit de Londres datant vers du début du 8e siècle, et une tradition exégétique qui parle d'un transmetteur de Ibn Amr, qui aurait lu un certain nombre des occurrences d'Ibrahim, Ibrahim et d'autres Ibrahim. Donc dans son lecture, on trouve les deux formes de noms. Tout ça, c'est spécifié. Ici, j'ai traduit le petit passage du Taïsir de Adani. Et maintenant, il est curieux d'observer que dans le manuscrit de Londres, il y a un accord entre les passages mentionné par Adani pour Ibrahim et la graphie avec Yah. On trouve dans deux autres manuscrits, le Codex Wettstein 1913 et un autre manuscrit Tübingen MA 6165, les mêmes endroits écrits avec Yah et sans Yah pour Ibrahim. Aux mêmes endroits où Hisham les mentionne pour sa lecture. Retournons aux évidences manuscrites. C'est un choix. Donc ici le manuscrit de Londres, les deux graphies, Ibrahim, Abraham. Et maintenant, donc j'ai pris de tous les 30 occurrences, j'ai pris 6 occurrences et il y a le problème des éléments effacés, des rajouts, etc. Mais les quatre manuscrits s'accordent sur cette répartition entre les deux graphies. Donc c'est assez bizarre et ça demande une explication. Dans son article paru en 2000, sauf erreur, Yassine Dotton fait mention de la lecture de Hisham. qui, par 18 occurrences, lit le nom du patriarque Ibrahim. Aux autres endroits, Hicham lit Ibrahim. Il est frappant de constater que dans le manuscrit de Londres, la répartition des deux graphies et des deux lectures correspond. C'est aussi le cas dans les manuscrits de Tübingen et le Grand Codex de Berlin, tous deux de provenance syrienne supposée. Dutton considère que le manuscrit de Londres constitue une espèce de notation de la recension de Hicham, un acteur syrien. Par cela, il part d'une transmission savante ou orale qui aurait été fixée sur parchemin. Mais il est aussi possible de renverser la perspective et l'explication donnée en partant de la transmission écrite, comme il est attesté par 3 manuscrits, 2 de l'Assyrie, 1 de provenance égyptienne. Il y avait une répartition des 2 graphies, avec Ya ou sans Ya du nom Ibrahim. Apparemment, dans l'époque avant, les 2 graphies ont coexisté. Cette répartition écrite trouve un reflet dans la recension de Hicham, qui lit la graphie avec Ya comme I, Ibrahim, et l'autre sans la lettre Ya, Ibrahim. Pour Yassine Dotten, qui part du postulat de la tradition orale, cela montre que le manuscrit de Londres suit le texte transmis par Hicham. Par le renversement de cette argumentation, l'hypothèse suivante peut en être déduite. Hicham interprétait les lettres Ya dans Ibrahim et l'absence de signes vocaliques dans les codex ou dans une large partie des codex tels qu'ils subsistaient à son époque en Syrie. On peut appuyer cette hypothèse sur le fait que 2 autres manuscrits proviennent aussi, qui attestent les mêmes graphies proviennent aussi de la Syrie. Notons aussi que le fait de trouver le nom d'un personnage biblique sous 2 formes différentes paraît assez bizarre. Sur le fond du développement historique de l'écriture arabe, la langue voyelle A peut être notée par les lettres Ya, Waw et Aleph. Lettre qui devient la dernière, l'Aleph, devient le signe par excellence pour la voyelle langue A. La voyelle langue I, par contre, est pratiquement toujours notée par la lettre Ya. Si les anciens manuscrits ne sont pas unanimes pour la graphie du patriarche, Ibrahim, Abraham, et en supposant une seule forme de son nom, la forme reconstruite sera Ibrahim. Troisième argument, c'est le Kitab al-Ilm. La faible quantité des chaînes de transmission dans ce premier dictionnaire de langue arabe, datable vers 800, suivant l'argumentation de Gregor Schöller, mentionne le lecteur des Qira'at dans une quantité assez faible. Sur quelques 114 variantes, j'ai fait un registre de toutes les variantes basé sur cette publication au sujet de Al-Khalil ibn Ahmad en arabe, persan et une thèse allemande des exégétischen Teile des Kitab al-Ayn. Alors, on peut faire un registre de 114 variantes. Pour 7 seulement, un lecteur est donné. Dans deux cas seulement, la variante est introduite comme celle d'une région. Je vais vous... Voilà, donc on en trouve 9 variantes avec une référence et 2 avec une référence régionale, en l'occurrence la région de Sheikh dans le sud de la péninsule arabe. Nous verrons aussi les autres qira'at dans le Kitab al-Ayn sont donnés d'une manière plutôt grammaticale, c'est-à-dire par exemple ici, le Kitab al-Ayn donne 2 variantes sans aucune mention du lecteur, « Ala tasjuda » et « An tasjuda ». Et il dit, voilà, les deux formes signifient pratiquement la même chose dans le contexte donné, mais, chose qui est remarquable ici, les deux sont en désaccord avec le rasm d'aujourd'hui. Autre exemple est peut-être celui-là, « Yahillu radabi » ou « Yahullu » Radabi, ou également le Kitab al-Ayn donne les 2 variantes, il les présente de manière anonyme, c'est-à-dire il dit celui qui lit Yahlil il veut dire ceci et l'autre veut dire cela. C'est-à-dire, en regardant le texte avec les lunettes du Xe siècle, du texte canonisé, l'absence des transmetteurs est frappant. Un quatrième argument va dans le même sens, c'est la pensée exégétique qui se base surtout sur la grammaire arabe dans ses débuts. C'est la grammaire, on a l'impression, qui engendre les variantes. Seule une minorité est appuyée par une argumentation se référant à des autorités, à une chaîne orale, chaîne de transmission, isnad. Est affiché ici le passage du traité philologique d'An-Nahas, Xe siècle, traitant le verset 4 de la première sourate. Et c'est... on trouve des évidences un peu semblables chez les autres exégètes de la première génération. Mourat et Soufiane, c'est moins grammatical, mais Al-Farah, Abu Ubaid, etc., c'est à peu près le même genre d'argumentation, sauf peut-être moins développé. Ici, quand même, on trouve un nombre assez élevé. Et... parmi les 14 variantes pour Malik Yaoumedine, on trouve que deux qui sont référenciées par un personnage. La cinquième observation, typologie des variantes de lecture. L'encyclopédie Mu'ajam al-Qira'at al-Qurani, imprimée au Koweït en 1988, constitue une référence centrale pour l'étude du texte coranique de l'époque moderne. Certes, l'ouvrage est parfois imprécis dans ses références, en donnant des références imprécises à la variante enregistrée, ne distinguant pas entre variante anonyme, régionale ou personnelle pour les sources dont elle offre la synthèse. Mais malgré sa négligence, des sources anciennes, comme les ouvrages exégétiques Al-Farah, Ibn Khalaway, Mukhat et Ibn Suleyman, l'encyclopédie koweïtienne offre un tour d'horizon à travers l'héritage des variantes coraniques sous forme de tableaux verset par verset faciles à consulter. D'après les sources exploitées par les deux auteurs de l'encyclopédie, la première sourate compte 58 variantes pour lesquelles les références et autorités indiquées par l'encyclopédie ne sont pas mentionnées au tableau suivant. Transcription des variantes en écriture arabe dont l'encyclopédie étant adaptée au système latin. Par le biais d'une typologie, nous proposons une forme de description plus précise afin de mieux cerner le corpus global des variantes de lecture. Pour chaque variante, nous indiquons le mot en récitation de Hafs et dans les colonnes du tableau sont notées en quoi s'en distingue la variante du texte. La différence est notée sur une des sept cases qui correspondent au type différent de divergence entre variation et texte égyptien, le texte de référence pour l'analyse. En gris est marquée la lettre ou les lettres qui se distinguent. Dans les colonnes de gauche sont notées les sons divergents séparés par un trait transversal. Pour les différences purement phonétiques, résultat des règles de la récitation tajouïde est indiqué le terme spécifique. Quand la variante lit un autre mot, synonyme, cela est noté par synon, l'abréviation. Les divergences à la base de ce tableau sont classifiées par des types qui enregistrent sur une échelle entre un degré léger de la divergence numéro 1, différence purement phonétique au-dessous de la sémantique des énoncés, et le degré le plus haut, numéro 7, l'absence d'un mot ou de quelques mots ou le rajout d'un mot ou plusieurs. La case de divergence du type numéro 7 est vide pour la première sourate parce qu'aucune variante de ce genre n'est pas attestée parmi les variantes textuelles de la première sourate. Les 7 degrés de différence dans les 58 variantes de l'encyclopédie font preuve, sont les suivantes. Ici, je saute parce que je crois que je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Voilà, donc pour donc, cet type, peut-être pour mieux comprendre l'argument, c'est-à-dire en partant d'un type léger, ou c'est-à-dire des variantes qui sont parfaitement en accord avec un tracé écrit. Deuxième type, c'est une différence phonologique, vocalisation différente, dédoublement d'une consonne, attaque vocalique, etc. La différence d'un alif, le type 3. Et de plus, on s'approche du type 7, le plus la forme du texte est altérée. À partir du type 5, le squelette de consonne est modifié. Le type 6 offre un mot différent. Et le type 7 contient des rajouts ou des éléments absents, toujours par rapport à l'édition du Caire. Pour les trier un peu, on pourrait les mettre placer dans trois groupes, c'est-à-dire le texte de consonne identique, c'est les deux premiers types. Au milieu, une altération légère, lorsqu'on considère le rajout d'un alif comme élément plutôt léger. Le type 4, c'est les signes diacritiques différents. C'est relativement neutre, mais c'est très important pour le sens du texte, comme dalalna ou salalna, le dat ou le sat. Et à droite, la modification du texte écrit. Maintenant, si on adapte cette typologie, on peut baser sur le choix de l'encyclopédie Couvetienne, faire des statistiques. Je l'ai fait pour la première sourate, 9, 19, 20 et 112. Et on constate plusieurs choses, mais ce qui est frappant, c'est que les deux types 6 et 7 sont très rares. Prenons l'exemple de la 20e sourate, sur à peu près 1400 mots, il y a plus de 500 variantes qui concernent 277 mots, et on trouve pratiquement 500 qu'on peut placer sous les deux types, c'est-à-dire qui sont parfaitement en accord avec le texte écrit, alors que les types 5, 6 et 7 sont pour toutes les sourates très très rares. Pour vous donner une idée, par exemple, le fameux cas de Surah Taha, In hadhani illa sahirani, inna hadhani illa sahiran, in dhani illa in mahada illa sahiran. Donc, on a rarement ce genre de type dans les sources exégétiques. Voilà, les sept observations. Le sixième porte sur. Maintenant, je dois faire marche arrière. Excusez-moi. Porte sur le alif réinterprété comme attaque vocalique. Bref, c'est deux formes, deux variantes, ya'juj wa ma'juj, ou dans les plus anciens manuscrits, on trouve avec une prépondérance légère les deux noms écrits par quatre lettres sans la alif. Vers la fin du 8e, 9e siècle, il y a de plus en plus l'alif qui est inséré, sans doute afin de noter la voyelle longue, et on a l'impression que pour les qira'at, cet alif porteur d'une voyelle est réinterprété comme signe de hamza, donnant la variante ma'ajuj, ya'ajuj, pour dire, voilà, ici, l'écrit a, disons, amené les docteurs, les savants, à réinterpréter l'écrit pour proposer une variante ya'ajuj avec Hamza. La septième observation est le principe traditionnaliste même. Le principe traditionnaliste en discipline de la transmission du Coran lutte contre deux autres courants. Ibn Mujahid l'explique très bien. Il lutte contre l'argument grammatical et l'argument de se servir des variantes attribuées à des autorités de la première génération comme Ibn Mas'ud et Ubay. S'agissant d'Ibn Mas'ud et Ubay, deux aspects semblent être pertinents. À travers toute la littérature exégétique, une quantité énorme des variantes est attribuée aux deux compagnons du prophète, qui sortent du texte commun en proposant des synonymes ou des rajouts. En d'autres termes, des variantes substantielles, d'une part. D'une autre, une grande partie de ces variantes sont attribuées à des codex des deux compagnons, c'est-à-dire on parle explicitement du support écrit. Rappelons-nous que le registre des variantes de lecture confectionné par Al-Sujaisri en 1937, Materials, regroupe ses entrées dans des chapitres attribués au codex, différents de la première génération. Rappelons-nous aussi que pour les autorités, les supports écrits de leur version n'est pratiquement jamais mentionné. Pour les versions de Al-Ahmash, de Nafia ou de Asim, par exemple, un codex comme référence n'est pas signalé par les sources, de manière générale, puisque les textes savants reconnus et ultérieurement classifiés en tant que canoniques sont à quelques rares exceptions près, compatibles avec le squelette de consonne non vocalisé, et parce que squelette de consonne non désambiguisé, le renvoi en support manuscrit fut sans doute pas nécessaire. Du moins, il ne constitue pas un véritable argument. Si tous les lecteurs canoniques, avant ou après la parole, c'est-à-dire après que Ibn Mujahid introduit les deux termes mutawatir et sans doute aussi shad dans le domaine des qira'at, s'appuyèrent sur un texte de référence mis par écrit, accessible et bien répandu, dont nous témoigne l'héritage écrit des plus anciens parchemins. La constatation de l'existence de la forme écrite ne fut peut-être indispensable. Rappelons-nous aussi que l'argument du tracé des manuscrits du Rasm émerge dans les commentaires en état de crise exégétique, si on pourrait dire ceci. Par exemple, pour le cas de la sourate 20, 63, Sahiran, où certains savants basent leur argumentation sur le Rasm. Alors, en conclusion, tradition orale ou transmission écrite, comment expliquer les variantes? Plusieurs réponses sont données pour expliquer la raison de corpus des variantes de lecture. Les dialectes arabes en seraient la cause, comme le fait entendre Prokleman, par exemple, dans ce petit passage de la Geschichte de l'arabische Literatur, où il dit, voilà, les divergences dialectales. On le trouve aussi, par exemple, ici dans des textes plus populaires, où on renvoie au Sabat Ahrof en les traitant comme termes pour les dialectes. Deuxièmement, prendre en considération les grammairiens, où la pensée grammaticale constitue la deuxième hypothèse. Les textes grammaticaux datant de la fin du 8e siècle, contenant un regard sur le texte coranique et les variantes de lecture motivées par la grammaire et contenant une quantité faible des autorités ou des variantes de lecture nommées, portant un nom. L'exemple de traité du 8e ou 9e siècle, Al-Farah Ma'ani, a été déjà mentionné. Notons aussi qu'à l'époque, même à l'époque classique, le grand commentaire de At-Tabari, contemporain d'Ibn Mujahid, un commentaire qui s'inscrit sur une large partie dans la pensée des chaînes de transmission, reste réticent à nommer des variantes de lecture. On a l'impression qu'aux yeux de Tabari, derrière les variantes, il y a plutôt des traditions régionales de lecture du texte, sans que cela soit issu d'une autorité. 3. Certes, les autorités se font remarquer dans la littérature savante dès le début. Le commentaire de Muqattil en contient comme pratiquement tous les commentaires, mais leur quantité reste néanmoins faible. Il serait nécessaire quatre à compléter cette présentation de données par l'héritage chiite, par l'analyse des variantes données par Assayyad et par exemple ou d'autres sources anciennes chiites, analyse pour laquelle je me sens pas vraiment compétent. Une large partie des variantes données par des savants chiites ou nommés chiites ultérieurement, un corpus qui est absent dans les encyclopédies des Qira'at habituellement, correspond au type 6 et 7 de notre typologie. D'un point de vue formel, il s'agit des larges collections des véritables variantes d'un type vivant oral. Ces variantes font état d'une propension du transmetteur à véhiculer le sens du texte par des synonymes ou des rajouts, plutôt que rester fixé sur l'interprétation d'un tracé écrit. La Mu'tazila, le grand courant rationaliste de l'islam, n'a pas, à ma connaissance, discuté le problème d'un discours divin prenant une multitude de formes. Et si oui, l'on devrait s'attendre à un rejet du principe traditionnaliste, si je peux me permettre cette remarque un peu simpliciste. 5. À la lumière des échantillons de la matière présentée, il est évident que la transmission écrite constitue le point de départ ou le cadre normatif de l'argumentation exégétique. Les traités savants philologiques avant le Xe siècle se réclamèrent des autorités, mais dans une assez faible mesure. Autrement dit, le nombre des variantes produites par les argumentations grammaticaux et lexicographiques prime, au moins en quantité, sur l'argument des autorités. Le Kitab al-Ayn, l'un des premiers textes savants arabes attestés, n'a que rarement recours aux variantes autorisées par un grand personnage des premières générations. 6. Pour quelques cas individuels, Ya'juj, Ma'juj, Saba'a avec Hamza ou avec voyelle longue en finale, il paraît possible de postuler un lien direct entre l'ambiguïté du tracé écrit et les variantes. 7. L'analyse statistique montre qu'au niveau quantitatif, l'exégèse philologique tourne autour d'un texte écrit. Malgré la mise en relief du point de la transmission, 2 minutes. Malgré la mise en relief du poids de la transmission écrite, il est impossible de nier la transmission orale de manière catégorique. Bien que les 7 leçons de Ibn Mujahid ne sont que difficilement attestées en tant que système complet dans l'évidence manuscrite, cela ne l'implique pas que tout savant du 8e siècle fût seul devant le texte du Coran, qu'il faisait l'effort d'interpréter un texte qui souffrait toujours du système imparfait issu de l'héritage nabatéen, seul et pour la première fois. La formation et l'apprentissage en philologie coranique se fit par la transmission des expertises et de l'expérience des savants, par la discussion des données empiriques, comme l'usage langagier des tribus et des parlers régionaux. Pour faire sens de l'histoire, il est nécessaire d'accorder aux manuscrits coraniques une place centrale ici. L'évidence manuscrite mérite d'être valorisée comme les rapports concernant les autorités et leurs variantes textuelles et la pensée grammaticale, la première véritable science de la tradition savante musulmane. La reconstruction de l'histoire du texte coranique n'est possible que si elle tient compte d'un dialogue entre ces 3 pôles, manuscrits, autorités, et pensée grammaticale. Il n'est pas impossible que ce champ argumentatif projeté entre les 3 paramètres, en intégrant les données datées et les plaçant dans un déroulement historique raisonnable, aboutira ainsi à une nouvelle vision de tradition orale. Merci.
Je vous remercie.